Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Chapitre 43. Ce dont Henchard s'était aperçu tout de suite, d'autres naturellement ne furent pas bien longs à le remarquer aussi. Le fait que M. Farfrae avait, entre toutes les femmes, choisi pour sortir avec elle la fille de ce gueux d'Henchard, fit bientôt l'objet des commentaires de la ville, où le terme de « sortir avec » désignait une recherche en mariage. Les 19 jeunes filles supérieures de Casterbridge, dont chacune se tenait pour seule capable de faire le bonheur du négociant conseillé, cessèrent avec indignation de suivre les offices de l'église où fréquentait Farfrae, firent trêve d'attitudes apprêtées et négligèrent de placer le nom du jeune homme dans leurs prières du soir, à côté de ceux de leurs proches parents, bref, revinrent à leurs habitudes. Les seuls habitants de la ville à qui l'étrange choix de l'Écossais valut une joie sans mélange étaient les membres de cette petite bande de philosophes qui comprenaient Longways, Christophe Coney, Billy Wills, Busford et consorts. C'est aux trois matelots que les deux jeunes gens avaient, des années auparavant, fait leur humble début sur la scène de Casterbridge, et les habitués du lieu témoins de ce premier pas prenaient à leur carrière un intérêt bienveillant, qui n'était peut-être pas sans rapport avec des perspectives de joyeuses agapes. Mrs. Stanage, ayant roulé un soir dans la grande salle et exprimé son étonnement de ce qu'un homme comme M. Farfrae, un pilier de la ville, qui aurait pu choisir parmi les filles des plus gros commerçants, voire parmi les filles des rentiers, eût été chercher si bas sa femme, Connie se hasarda à protester. « Non, madame, il n'y a là rien d'étonnant. C'est plutôt elle, à mon avis, qui s'abaisse en le prenant. Un veuf à qui sa première femme n'a guère fait honneur. » Qu'est-ce que cela représente pour une jeune fille instruite, qui est sa propre maîtresse et que tout le monde aime fort? Mais pour replâtrer les choses, il me semble que cette affaire-là se présente assez bien. Quand un homme a élevé comme celui-là un beau tombeau de marbre à sa femme, pleuré tout son saoul, et s'est dit après coup « L'autre m'avait attrapé, mais j'ai connu celle-là la première, et ce sera un bon parti pour un mari, il n'y a plus de femme fidèle dans le grand monde », eh bien, il peut faire pique de la prendre si elle veut bien de lui. » Ainsi parlait-on aux trois matelots. Mais nous nous garderons de faire un trop généreux usage du cliché selon lequel l'approche de l'événement aurait causé une grosse sensation et défrayé tous les potins de la ville, quand bien même une telle affirmation devrait prêter quelque éclat à l'histoire de notre pauvre héroïne solitaire. À écouter de près les conversations des travailleurs, on s'aperçoit bien vite que les affaires qui ne les touchent pas n'excitent leur intérêt que de façon bien temporaire et bien superficielle. On serait plus près de la vérité en affirmant qu'en dehors des 19 jeunes personnes, Casterbridge avait écouté un instant la nouvelle pour en détourner bientôt son attention et se remettre à travailler, à manger, à élever ses enfants et à enterrer ses morts, sans se soucier le moins du monde des affaires domestiques de Farfrae. Pas plus que Donald, Elisabeth n'avait encore soufflé mot de l'affaire à Henchard. L'ancien maire se disait, en songeant à cette réticence, qu'instruit par les leçons du passé, les deux amoureux redoutaient d'aborder un sujet brûlant, et le considéraient lui comme un obstacle gênant qu'ils auraient avec joie écarté de leur route. Aigri contre les hommes en général, Henchard se laissait envahir un peu plus chaque jour par cette idée douloureuse, et la nécessité des rapports quotidiens avec ses semblables, et en particulier avec Elizabeth Jane, lui devenait presque intolérable. Ses forces déclinaient, il souffrait d'une sensibilité morbide, il aurait voulu fuir ceux qui ne souhaitaient pas sa présence et se cacher pour toujours. Mais ne se trompait-il pas dans son appréciation? Et le mariage éventuel d'Elisabeth devait-il fatalement entraîner leur séparation définitive? Il essaya de se représenter la seconde alternative et de se voir, habitant comme un lion édenté, les pièces de derrière d'une maison où sa belle-fille commanderait. Vieillard inoffensif, il recevrait des sourires tendres d'Elisabeth et serait toléré avec bonne grâce par son mari. Son orgueil se révoltait à la pensée d'un tel abaissement. Mais il aurait consenti à tout pour l'amour de la jeune fille. De Farfrae même, il aurait accepté rebuffade et impérieux reproches. Le privilège d'habiter la même maison qu'elle compensait l'humiliation qu'il aurait pu éprouver. Qu'une telle éventualité pût se réaliser ou que l'inverse dût se produire, les assiduités maintenant manifestes de Farfrae prenaient pour Henchard un intérêt tout-puissant. Elisabeth, on l'a dit, se promenait souvent seule sur la route de Budmouth, et Farfrae, non moins souvent, s'arrangeait, comme par hasard, à les rencontrer. À un quart de mille du chemin s'élevait le fort préhistorique connu sous le nom de Tertre de Mai, immense enceinte à multiples remblais, sur lesquels un être humain ne faisait de la route que l'effet d'un point insignifiant. Henchard venait souvent là, lunettes en main, pour fouiller sur une distance de 2 ou 3 milles la route dépourvue de haies, la via originellement tracée par les légions de l'Empire. Il espérait ainsi suivre les progrès des affaires entre Farfrae et son enchanteresse. Un jour qu'il se trouvait à son poste, il vit une silhouette masculine s'avancer d'un pas nonchalant sur la route de Budmouth. Portant l'œil à sa lunette, Henchard s'attendait à reconnaître les traits de Farfrae. Mais il s'aperçut que cette fois, l'homme n'était pas l'amoureux d'Elizabeth Jane. C'était un individu habillé en capitaine de la marine marchande. Il se retourna tout à coup pour regarder la route et laissa voir son visage. Henchard vécut une vie tout entière au moment où il reconnut ce visage. C'était celui de Newson. Henchard laissa tomber sa lunette et resta un instant sans faire un mouvement. Newson attendait manifestement, et Henchard attendait aussi, si l'on peut dire d'un homme pétrifié, qu'il attend. Mais Elizabeth Jane ne se montrait pas. Une raison quelconque avait dû lui faire renoncer ce jour-là à sa promenade quotidienne. Peut-être, pour changer, Farfrae et elle avaient-ils adopté une route nouvelle. Mais qu'importait? Elle pouvait venir le lendemain, et Newson, en tout cas, s'il était décidé à la voir et à lui dire la vérité, saurait bientôt faire naître l'occasion d'une rencontre. Et alors, ce n'est pas seulement sa véritable paternité qu'il lui révélerait, mais encore la machination qu'il avait écartée une première fois. La droiture d'Elisabeth trouverait dans ce récit une première raison de mépriser son beau-père, et, comme celui d'un imposteur, elle effacerait son souvenir d'un cœur où Newson régnerait à sa place. Mais Newson ne devait pas voir sa fille ce jour-là. Après l'avoir attendu quelque temps, il retourna sur ses pas, et Henchard connut le soulagement du condamné qui se voit octroyer quelques heures de sursis. En rentrant chez lui, il trouva Elisabeth. « Oh père, fit-elle naïvement, j'ai reçu une lettre singulière, sans signature. » Un inconnu me prie d'aller le voir, soit aujourd'hui à midi, sur la route de Budmouth, soit ce soir chez Monsieur Farfrae. Il dit être déjà venu pour me voir il y a quelque temps, mais on lui a joué un tour et il ne m'a pas trouvé. Je n'y comprends rien, mais entre nous, je crois que Donald est au fond de l'affaire et que c'est un de ses parents qui voudrait se faire une opinion sur la femme qu'il a choisie. Mais je n'aurais pas aimé y aller avant de vous avoir revu. Faut-il le faire ? Oui, vas-y, répondit Henchard d'une voix sourde. La question de son séjour à Casterbridge était résolue par cette rentrée en scène de Newson. Henchard n'était pas homme à affronter une condamnation certaine sur une question qui lui tenait tant à cœur. Habitué de longue date à supporter l'angoisse dans un hautain silence, il ne voulut point s'attendrir sur ses résolutions et prit sans tarder toutes les dispositions nécessaires à son départ. Il étonna fort la jeune fille qui était devenue depuis des mois son seul bien au monde en lui disant, comme s'il ne s'était plus soucié d'elle, « Je vais quitter Casterbridge, Elizabeth Jane. »« Quitter Casterbridge ? » s'écria-t-elle. « Et me quitter moi ? » ?»« Oui, tu pourras faire marcher cette petite boutique à toi seule aussi bien que nous deux. Je n'aime pas les boutiques, les rues et les gens. Je veux m'en aller vivre seule à la campagne, loin de tous les yeux, et suivre mon destin en te laissant faire ta vie. » Elizabeth baissa les yeux et se mit à verser des larmes silencieuses. Elle voyait trop naturellement dans cette brusque décision le fruit de son attachement et de son résultat probable. Mais elle témoigna de son amour pour Farfrae en maîtrisant son émotion pour dire d'une voix qu'elle avait peine à rendre calme. « Je suis fâchée que vous ayez pris une telle résolution. Il est possible que j'épouse bientôt Monsieur Farfrae, et je ne croyais pas que vous me désapprouviez. J'approuve tout ce qu'il te plaira de faire, Izzy, fit Henchard d'une voix tremblante. « Si je ne t'approuvais pas d'ailleurs, cela n'aurait pas d'importance. Il faut que je parte, ma présence pourrait être gênante à l'avenir, et, en un mot, il vaut mieux que je m'en aille. » Aucun des arguments suggérés par l'affection d'Elisabeth ne put le faire revenir sur sa décision. Elle ne pouvait pas lui dire ce dont elle ne savait rien, elle ne pouvait pas promettre de contenir son mépris le jour où elle saurait que nul autre lien ne les unissait que celui du mariage de sa mère. de maîtriser son aversion en apprenant ce qu'il avait fait pour la laisser dans l'ignorance. Enchard était convaincu qu'elle ne pourrait se dominer, et nulle parole, nul incident ne lui permettait de conclure autrement. « Alors, fit-elle par soupirer, vous ne pourrez pas assister à mon mariage, et cela ne sera pas bien. Je ne veux pas le voir, je ne veux pas le voir, s'écria-t-il, pour ajouter bientôt plus doucement. Mais tu penseras quelquefois à moi plus tard, veux-tu, Izzy ? Tu penseras à moi quand tu seras la femme du plus riche, du premier homme de la ville, et mes fautes, quand tu les connaîtras toutes, ne te feront pas oublier tout à fait que, si j'ai mis du temps à t'aimer, je t'ai aimé bien fort. « C'est à cause de Donald !» sanglotait la jeune fille. « Je ne te défends pas de l'épouser, répliqua Enchard. Promets seulement de ne pas m'oublier. » Il voulait dire « quand Newson sera revenu. » Tout émue, Elisabeth promit machinalement. Et le soir même à la brune, Enchard quitta la ville au développement de laquelle il avait présidé pendant tant d'années. Dans la journée, il avait acheté un nouveau panier à outils. Il avait nettoyé son vieux couteau à foin et son crochet à botteler. Il s'était muni de jambières neuves, de genouillères et de culottes de velours. Il avait repris les vêtements de sa jeunesse, en renonçant pour toujours au complet usé de gentleman et au chapeau de soie roussi, qui, depuis son déclin, l'avait désigné aux yeux dans les rues de Casterbridge comme un homme qui avait connu de meilleurs jours. Il partit seul et en secret. Et de tous ceux qu'il avait connus, aucun ne fut informé de son départ. Elizabeth Jane l'accompagna jusqu'au second pont de la grande route. L'heure de son rendez-vous chez Farfrae avec le mystérieux inconnu n'était pas encore arrivée. Il le quitta avec un étonnement sincère et une peine profonde. Elle le retint une ou deux minutes avant de le laisser partir définitivement. Elle suivait des yeux sa silhouette qui diminuait au loin sur la lande. Elle regarda jusqu'au bout le panier de paille jaune qui s'élevait et s'abaissait à chaque pas sur le dos du voyageur, et les plis qui se creusaient et s'effaçaient alternativement derrière ses genoux. Elle ne savait pas qu'à ce moment, Enchard offrait un aspect très analogue à celui qu'il avait lors de sa première arrivée à Casterbridge, près d'un quart de siècle auparavant. Seulement, le poids accru des années avait ôté l'élasticité de son pas, le désespoir de sa situation l'avait affaibli et imprimait à ses épaules, sous la charge du panier, une notable voussure. Il marcha tout droit, jusqu'à la première borne militaire encastrée dans le talus et placée à mi-côte d'une rude montée. Posant son panier sur la pierre, il y appuya ses coudes et laissa échapper un mouvement convulsif, plus douloureux qu'un sanglot, tant il était dur et sec. « Si je l'avais seulement avec moi, si je l'avais seulement, dit-il, le plus dur travail ne me serait pas pénible, mais cela ne devait pas être. Comme Caïn, je m'en vais seul, réprouvé et vagabond. Je le mérite, mais mon châtiment n'est tout de même pas si cruel que je ne puisse le supporter. » Et, maîtrisant rudement son angoisse, il reprit son panier pour poursuivre sa route. Cependant, après l'avoir vu disparaître avec un soupir, Elisabeth avait retrouvé son calme et repris le chemin de Casterbridge. Avant d'atteindre les premières maisons, elle vit Donald Farfrae venir à elle. Ce n'était évidemment pas leur première rencontre de la journée. Ils se prirent les mains sans cérémonie, et Farfrae demanda avec inquiétude. « Alors, il est parti? Vous lui avez raconté? C'est de l'autre affaire que je veux parler, pas de la nôtre. Il est parti, et je lui ai dit tout ce que je savais de votre ami. Qui est-ce, Donald? Attendez, attendez, chérie, vous allez bientôt le savoir. Et Monsieur Enchard l'apprendra aussi s'il ne s'en va pas trop loin. Il s'en ira loin. Il veut disparaître pour qu'on ne le voie plus et que l'on n'entende plus parler de lui. » Elisabeth marchait à côté de son amoureux, et en arrivant à la pompe banale, prit avec lui la rue du Blé au lieu d'aller droit à sa porte. Ils s'arrêtèrent devant la maison de Farfrae et entrèrent. Le jeune homme ouvrit toute grande la porte du salon du rez-de-chaussée. « Il vous attend, » dit-il, et Elisabeth entra. Dans un fauteuil était assis l'homme au large et bon visage, qui était venu voir Enchard un matin mémorable, un ou deux ans auparavant, et que l'autre avait vu monter sur la diligence pour repartir une demi-heure après son arrivée. C'était Richard Newson. Il n'est guère besoin de relater la scène. Elisabeth retrouvait le père au cœur jeune, dont une mort supposée l'avait séparé pendant une demi-douzaine d'années, et cette réunion était émouvante par elle-même, en dehors de toute question de paternité. Le départ d'Enchard s'expliquait de lui-même. Quand Newson montra à la jeune fille le véritable état des choses, Il n'eut pas autant de peine à la convaincre qu'il aurait pu le craindre. La conduite même d'Enchard prouvait la véracité de ses dires. D'ailleurs, Elisabeth avait grandi sous l'œil paternel de Newson, et même si Enchard avait été son véritable père, ce père de ses jeunes années aurait pu l'emporter sur lui, une fois dissipée la tristesse d'un trop récent départ. Newson ne pouvait exprimer sa fierté en voyant ce qu'était devenue la jeune fille. Il ne cessait pas de l'embrasser. « Je t'ai épargné la peine de venir au-devant de moi. Ha ha !» riait-il. « Le fait est que M. Farfrae m'a dit « Venez passer un ou deux jours chez moi, capitaine Newson, et je vous l'amènerai. »« Ma foi, je veux bien, ai-je répondu, et me voici. » »« Eh bien, Enchard est parti, » dit Farfrae, en fermant la porte. « Il l'a fait volontairement, et, à ce que m'a dit Elisabeth, c'est montré bon pour elle. J'étais un peu inquiet, mais tout s'est arrangé pour le mieux, et nous n'aurons pas la moindre difficulté. » « Allons, c'est bien ce que je pensais, » fit Newson, en regardant les jeunes gens tour à tour, « et ce que je m'étais dit 100 fois en essayant de jeter un coup d'œil sur elle, à son insu. Il vaut mieux que je me tienne quelques jours un peu tranquille comme cela, me disais-je. Je vais attendre un événement quelconque qui arrangera les choses. Je sais maintenant que tu es heureuse. Que pourrais-je demander de plus ?»« Eh bien, capitaine Newson, je serai charmé de vous voir tous les jours chez moi dorénavant, puisque la chose ne peut plus avoir d'inconvénient, » dit Farfrae. Et voilà ce qu'il me semble, nous pourrions aussi bien faire la noce dans cette maison. Elle est grande et vous avez votre domicile à part. Cela nous épargnerait beaucoup de tracas et de dépenses, et il est bien commode pour des mariés de n'avoir pas à courir loin pour trouver un toit. J'y consens de tout cœur, approuva Newson. Comme vous le dites, la chose ne souffre plus de difficultés maintenant que le pauvre Enchard est parti. Je n'y aurais pas consenti sans cela, et n'aurais pas voulu me jeter dans ses jambes, car je suis déjà entré en intrus dans son existence, avec plus d'indiscrétion que ne saurait l'admettre une stricte politesse. Mais qu'est-ce que notre jeune fille va dire de cela ? Elisabeth, mon enfant, viens écouter ce dont nous parlons, au lieu de rester à la fenêtre, comme si tu ne nous entendais pas. « Il faut que vous preniez toutes les décisions avec Donald, » murmura Elisabeth, sans cesser de regarder fixement un petit objet dans la rue. « Eh bien alors, nous ferons comme vous le proposez, monsieur Farfrae, » fit Newson, en tournant vers l'Écossais un visage où se lisait tout l'intérêt qu'il prenait à la question. « Et puisque vous fournissez le logis et tant d'autres choses, je m'occuperai pour ma part de la boisson. Je verrai à ce que l'on ne manque pas de rhum ou de sidam. Une douzaine de bouteilles suffiront probablement. Il y aura moitié de dames parmi nos invités, et peut-être ne boiront-elles pas assez pour compter beaucoup dans la moyenne. Vous savez certainement cela mieux que moi. J'ai souvent fait les provisions pour mes camarades ou mes hommes. » Mais je n'en sais pas plus long qu'un enfant sur le nombre de verres de grog qu'une femme qui n'est pas une ivrognesse est censée absorber dans ce genre de cérémonie. « Non, non, nous n'aurons pas besoin de tout cela, non, certes, » fit Farfrae en hochant la tête avec une gravité terrifiée. « Laissez-moi donc faire. » Après une courte discussion sur les détails de la noce, Newson se renversa sur son fauteuil et dit avec un sourire méditatif vers le plafond. « Je ne crois pas vous avoir encore compté, n'est-ce pas, monsieur Farfrae ? Comment Enchard m'avait donné le change à ma première visite ?» Farfrae exprima son ignorance de l'histoire à laquelle faisait allusion le capitaine. « Ah, il me semblait bien ne vous en avoir rien dit. J'avais décidé, je m'en souviens, de ne pas le faire, pour ne pas causer de tort au pauvre homme. Mais maintenant qu'il est parti, je puis bien vous raconter la chose. J'étais déjà venu ici 9 ou 10 mois avant de vous rencontrer la semaine dernière. J'étais même venu 2 fois. La première en filant vers l'ouest, sans me douter qu'Elisabeth vécût dans la ville. Puis, apprenant quelque part, je ne sais plus où, qu'un nommé Enchard avait été maire de Casterbridge, je revins et j'allais le trouver chez lui un matin. Le farceur ! Il me dit qu'Elisabeth Jane était morte depuis des années. » Elisabeth commençait à prêter une oreille attentive. « L'idée ne m'était pas venue qu'il pût me conter une histoire, » continua Newson. « Et croyez-moi si vous voulez, j'étais si démontée que je repris la diligence qui m'avait amenée et continuai mon voyage, sans rester une demi-heure en ville. Ah, c'était une bonne farce, un tour bien joué, et j'en félicite Enchard. » Elisabeth Jane restait stupéfaite. « Une farce ? Oh non » cria-t-elle. « Alors c'est sa faute, père, si vous êtes resté tout ce temps loin de moi quand vous auriez pu être ici. » Newson reconnut qu'elle disait vrai. « Il n'aurait pas dû agir ainsi, » déclara Farfrae. Elisabeth soupira. « J'avais dit que je ne l'oublierais jamais, mais maintenant il me semble qu'il vaudrait mieux l'oublier. » Comme tant de voyageurs qui ont vécu parmi d'étranges gens et connu de non moins étranges morales, Newson ne concevait pas l'énormité du crime d'Enchard, dont il avait été pourtant la première victime. Devant les graves reproches adressés au coupable absent, il se mit même à prendre sa défense. « Oh, il ne m'a pas dit 10 mots en tout, plaidait-il, et il ne pouvait pas s'imaginer que j'allais être assez naïf pour le croire. Je suis autant à blâmer que lui, le pauvre. » « Non, fit Elisabeth d'un ton décidé, qui montrait combien ses sentiments venaient d'évoluer. « Il connaissait votre bonté. Vous avez toujours été si confiant, père. J'ai entendu ma mère le répéter 100 fois, et il a menti pour vous tromper. Après m'avoir déjà détaché de vous pendant 5 ans en prétendant être mon père, il n'aurait pas dû faire cela. » Elle parlait avec conviction, et il n'y avait personne pour plaider la cause de l'absent et excuser son mensonge. Enchard lui-même, s'il s'était trouvé là, n'aurait sans doute pas tenté de le faire, tant il prisait peu maintenant sa propre personne ou sa réputation. « Allons, allons, laissons cela, c'est une chose du passé et qui ne reviendra plus, » fit Newson avec bonhomie. « Et maintenant, revenons-en à ce mariage. »